18h-19h, Time Sport, avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM. En ce début de semaine pour certains et pour d'autres, les vacances de Toussaint, ensemble jusqu'à 19h dans votre émission Time Sport. Comme d'habitude, une ambiance de folie, on vous le promet, dans le studio de Beurre FM, rien que pour vous, chères auditrices et chers auditeurs. À travers cette émission, on reviendra sur la mauvaise passe du Real Madrid en ce moment et l'arrivée probable d'un certain Zlatan Ibrahimovic dans la capitale espagnole, le retour du rugby dans Time Sport avec les clubs français en Champions Cup, sans oublier le Grand Prix F1 des États-Unis et le sacre d'un certain Raikkonen. C'est parti, go Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir, l'équipe pour m'accompagner durant cette émission. Autour de la table, Mamadou Lamine Mané de Deuxième Conseil, Alexandre Seban, journaliste et consultant Time Sport. Comment ça va, Alex?
Ça va, Bilal, une belle journée et puis un gros week-end de sport. Moi, j'ai regardé pas mal la F1.
Ouais.
Je suis au taquet sur la F1 et je peux te dire que Hamilton, il va avoir les crocs la semaine prochaine.
Aïe, aïe, aïe. Ça promet donc sur ce championnat de Formule 1. Nabil Zindi, consultant Time Sport et conseiller sportif. Comment ça va, Nabil?
Bonsoir, Bilal. Bonsoir à tous. Impeccable, écoute, nickel.
Nombre d'auditrices m'ont dit que Nabil Zindi avait une charmante voix. Je tenais à le rappeler à l'antenne. Voilà. Rudy Cazier aussi, il a une belle voix. C'est un consultant Time Sport et qui a avec nous ce soir. Comment ça va, Rudy?
Ça va bien, Bilal.
Ah, ça va bien.
Et là, on est en place.
On est en place. Alors, on prend le chemin de la capitale espagnole.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, en ce début de semaine, il est consacré au Real Madrid. Comment s'en tirer et s'en sortir pour les hommes de Lopetegui, déjà en mauvaise posture dans la capitale espagnole et à travers le championnat de Ligue 1, on va savoir peut-être en Champions League, les Meringuets ont-ils les ressources nécessaires pour redevenir, des leaders comme on l'avait connu avec ces 3 années avec Zizou. Nabil, on t'écoute.
Écoute, je ne pense pas, Lopetegui va se faire virer. Attention, demain, il joue contre les Tchèques de Plzeň en Ligue des Champions.
Ouais.
Une défaite à domicile et c'est terminé. C'est la porte. Obligatoirement, après deux défaites à domicile.
On donne déjà Conte ou encore Arsène Wenger.
Arsène Wenger, Conte, bien d'autres. Le Real Madrid,
Roland
ça se
Courbis
refuse pas.
Ah, Roland Courbis.
Je pense pas, un peu moins quand même. Ça manque de stars, Roland Courbis.
On l'annonce partout. Mais,
Au Real. Pas faux, Alex. Ouais. Alexandre, concernant ces meringuets, ça fait peur.
Ouais.
En tout cas, pour ce
on
grand club.
On remplace pas Zinedine Zidane comme ça. On remplace pas cette organisation.
Ah, c'est difficile.
Qu'il y avait entre Zinedine Zidane et David Bettoni, son adjoint, qui a fait tourner le Real pendant 4 ans et avec le succès que l'on connaît. Et évidemment, on remplace pas non plus Cristiano Ronaldo comme ça.
Ah, il manque.
Quand le pauvre Julen Lopetegui, il a pas de chance parce que il arrive avec des joueurs blessés, en méforme, il doit faire tourner un peu l'effectif, des jeunes qui sont pas totalement au niveau. Un début de saison difficile, forcément, c'est l'après, c'est l'ère d'après, donc c'est toujours un peu compliqué. Et voilà, au début, on a eu un semblant de bonnes choses avec des débuts à gogo. On disait c'est bon, ils ont oublié le départ de Cristiano, Bale, Benzema, Isco devant ou Asensio, ça dépendait des fois. Puis finalement, les joueurs, voilà, certains sont blessés, certains ont été un peu en méforme. Donc c'est un peu compliqué. Maintenant, on n'a pas le temps de réfléchir à tout ça.
C'est une équipe qui doit aller vite.
Ça gagne et ouais. Julen Lopetegui, je crois que Nabil l'a dit il y a quelques instants, ça sera la porte s'il y a défaite. Mais moi, je crois même que ça sera la porte tout court. Avant même
toi.
La défaite, je pense que là, on est déjà dans un entre-deux.
Il y a certains de nos confrères qui l'annoncent. Certains de nos confrères qui l'ont annoncé.
Quand on entend les déclarations, que ça soit de Sergio Ramos ou Varane ou Marcello, qui est le vice-capitaine également, tu te dis bon, c'est l'ancien sélectionneur de la Roja qui a quitté la Roja. On sait dans quelles conditions pour la Coupe du Monde.
Bien sûr, il s'est mis en danger tout seul d'ailleurs.
Donc c'est vrai que c'est inquiétant vu l'ambiance et vu les résultats.
Tu dis là le soutien des cadres, je peux comprendre, mais en attendant, est-ce que devant les caméras, devant les micros, moi pour avoir eu l'habitude un peu d'aller faire les zones mix et tout de temps en temps par le passé. Les mecs te disent pas ouais l'entraîneur ça va pas le ceci ou cela surtout dans la maison Real Madrid dans la Casablanca.
Sergio Ramos quand même qui est aussi capitaine
mais
de la Roja,
je suis pas sûr
qu'il a connu Lopetegui en sélection.
Ouais mais si ça va pas je pense pas qu'il va le dire
entre les deux.
Il y a une relation mais si ça va pas il le dira pas face caméra, ils ont pas l'habitude de parler devant les caméras ces joueurs là. En général ils lavent le linge sale en famille et là je pense que la famille et le père de famille qui est Florentino Pérez il constate que ça va pas. Il y a des entraîneurs comme l'a dit Bilal, un Wenger qui est libre, pourquoi pas tenter Wenger? Ouais, et ça aurait de la gueule, Wenger, avec sa jeune génération, il a l'habitude de jouer les jeunes et des stars aussi.
Ça lui fera du bien pour Arsène Wenger. N'oubliez pas, chers auditeurs et chers auditeurs de Beurre FM, le hashtag TamSport pour réagir avec vos spécialistes sur la Twittosphère, sans oublier aussi la fanpage sur Facebook de Beurre FM, le 01 53 48 3000 pour réagir avec nous. Et Rudy, on aimerait t'entendre concernant ce grand club qu'est le Real Madrid.
J'entends parler de Wenger, je me dis attention, il ne faut pas transformer le Real en centre de formation européen.
Aïe, pour certains.
Mais là, il n'aura pas de stade à construire ou à
On
mortir.
Aime plutôt compter, ou on préfère compter à Wenger.
Ouais, mais après, par rapport au Real, il faut quand même considérer que c'est une équipe qui n'a pas su se renouveler au niveau de l'effectif, parce que Zidane a voulu reconduire un groupe qu'il connaissait bien, qu'il maîtrisait bien. Bien lui a pris, il a gagné une troisième Ligue des Champions d'affilée, mais il a laissé un navire en péril, si je puis dire, en quittant le bateau, un petit peu comme les bateaux de croisière qui se crachent.
C'est toujours comme ça,
voilà,
peut-être.
Tu vois, c'est le gars, il prend le bateau, il se tire. Maintenant, il faut quand même dire aussi que la faute repose un peu sur Florentino Pérez.
Le président, le disait.
Ne serait-ce qu'au moins cet été, pas avoir su recruter avec l'argent qui était entré avec Cristiano Ronaldo.
Il est pris en vie par les supporters. Bien entendu, par rapport à ça.
Et en plus, les supporters, si vraiment, en tout cas les sociaux, si vraiment ils sont déçus de Florentino Pérez, ils peuvent leur faire payer. Il me semble qu'ils ont la possibilité d'avoir des élections anticipées, pour élire un nouveau président à la tête du club. Donc c'est un peu le souci. Par contre, par rapport à Lopetegui, il aura peut-être une forme de répit, dans le sens où c'est Florentino Pérez qui l'a imposé, et il lui doit bien, quelque part, de lui donner du répit, parce que c'est quand même de sa faute s'il s'est fait virer de son poste de sélectionneur de la Roja. Donc ça lui laisse peut-être encore un peu de répit jusqu'à cet hiver. Malgré tout, il faut quand même qu'il essaye de relancer la machine. Mais
il faut vite la relancer à l'approche du Classico, Rudy.
Une dynamique comme celle-ci, c'est difficile.
Mamadou Lamine Mané, on l'écoute concernant ce grand Real Madrid. Petit en ce moment.
Surpris que Lopetegui ne soit pas déjà dehors.
Ah oui, toi qui as d'entrée.
Attends, Florentino Pérez, c'est pas un tendre. Il n'a pas l'habitude de mener ses troupes. Enfin, il a plutôt l'habitude de mener ses troupes à la baguette quand ça ne marche pas. Et puis, il a déjà démontré. Zidane a été mis sur la sellette l'année dernière pour très peu, alors qu'il finit par gagner la Ligue des Champions. On sait que en son temps, Alfredo Di Stefano, c'est dans la nature du Real que celui qui est aux commandes du navire, il y a pas, le club est toujours plus important que les joueurs, que les coachs. Moi, je suis même surpris que Lopetegui est pas
toujours là.
Et de toute manière, je vais un peu poursuivre dans ce que disait Rudy. Ce qui arrive aujourd'hui au Real, malheureusement, j'ai l'impression que le scénario qu'on a vu pendant la Coupe du Monde, c'était déjà mal parti. Faire cette mini crise qui a conduit l'équipe, je vais extrapoler, qui a conduit l'équipe d'Espagne à sortir au premier tour. Tu lui enlèves son coach en plein mondial, tu fais venir là-dessus, tu n'as pas l'opinion.
C'est
de
un
tout
peu
le monde.
La faute de la fédération espagnole, excuse-moi, Manu, mais si la fédération pète pas un câble, le président de la fédération pète pas un câble, l'opinion qui reste dans la
salle,
du monde et après il vient derrière.
Pas faux, Alex.
Excuse-moi, venir draguer le sélectionneur qui en pleine Coupe du Monde est en train de préparer l'équipe nationale pour aller, je sais pas, le plus loin possible, tu viens le draguer aux yeux au-dessus de tout le monde.
C'est fou quand même, Alex.
Moi, j'ai jamais vu ça.
Pas négliger cela.
Ça se fait de partout.
Ouais, avant, mais d'une autre manière, peut-être.
Jacques Santini avant l'Euro 2004, ou alors signé à Tottenham, ou je ne sais plus où.
Il l'annonce. Mais savait qu'il partait.
Exactement. Ou alors, si tu l'annonces, t'es quand même un tout petit peu plus, excuse-moi, de vice. Ça se passe entre les portes.
Bien sûr qu'il y a du
coulisses.
Mais c'était le président de la fédération aussi qui a.
Là, je crois que c'est très, très vicieux. Donc, Pérez, il a quand même joué de sa position. Et je vais revenir à Lopetegui. Il a joué de sa position en disant que je suis le président du Real. Je viens de gagner 3 dernières Ligues des Champions. Je peux me permettre ce que je veux. Et il est venu taper dans la fourmilière jusqu'à ce qui s'est passé là derrière.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, à quel moment le président est lui aussi mis en cause. C'est bien de faire sauter Zidane.
C'est pour ça. C'est pour ça que.
À un moment donné, Lopetegui.
Pour remettre Lopetegui
qui a voulu partir.
Lopetegui. Il sentait quand même la pression.
Il n'est pas bête, tu vois.
Il était déjà sur la sellette par rapport.
On l'a terminé, Rudy. Mamadou.
S'il avait provoqué un mini tsunami, on a les répliques et c'est les secousses de ce qui s'est passé pendant le mondial. Ce qui fait qu'on arrive au. Et le Real aujourd'hui est en train de pâtir de ce qu'a provoqué Pérez derrière. Moi, c'est mon point de vue.
C'est pas faux. Messieurs, les spécialistes et vous aussi, les auditeurs, vous pouvez réagir au 01 53 48 3000. Comment préparer? Parce que les sociaux se le demandent, Rudy. Le classico, le vrai classico. À l'échelle mondiale, justement, dans de telles conditions. Nabil, on l'écoute, Nabil Zindik. Le Classico approche à grands pas. Messi blessé, Ronaldo depuis 2007, je crois. Alexandre, hein, qui est assez fin sur les statistiques, qu'on n'aura plus. Voilà, ces deux grands joueurs.
2009.
Ouais, 2009 ou 2007.
Il arrive en 2009.
2009, excusez-moi. 2009, c'est bien ça.
On a les deux sur la pelouse.
Ouais. C'est ça. Nabil.
Vu l'ambiance qui règne au sein du vestiaire du Real Madrid, j'ai envie de te dire, je vois mal comment ils vont s'en sortir. Il y a une petite altercation, Sergio Ramos avec le jeune latéral gauche, je ne sais plus son nom, à l'entraînement, sur un jeu de ballon où il lui a mis un coup et puis Sergio Ramos, il lui tire dessus. C'est vrai que ça annonce mal le prochain match. Demain, il ne faut pas oublier, c'est demain, 21h, contre les Tchèques de Plzeň, en sachant que Madrid a déjà perdu en Ligue des Champions contre CSKA Moscou, 1-0. Il y a deux défaites à domicile. Vous perdez hier ou avant-hier contre Levante, 1-2 à domicile, où les attaquants ne marquent pas. Après, j'ai envie de dire, Gareth Bale qui se plaignait de son temps de jeu sous Zidane, il disait oui, on ne fait pas confiance, etc. À Marco Asensio qui voulait jouer plus, etc. Aujourd'hui, on leur donne leur chance, ils jouent les gars.
Ouais.
Et ils montrent rien du tout, je suis désolé.
Pourtant, Zidane avait raison. Et pourtant, il y a le grand Modric qui est sur le terrain, je comprends pas qu'il gagne pas, moi.
C'est la méforme.
Hein, c'est bizarre quand même.
Ben oui.
Il y a la méforme des
parents, il est taquin, Alex.
Le Varane,
Ah là là, Alexandre.
De vos erreurs sur le match contre les
Varane. Ils veulent le ballon d'or. On parle de Varane pour le ballon d'or, attention.
Par rapport au classico, Bilal,
t'inquiète pas, le ballon d'or, on aura le temps d'en parler, Alex. Non, je me ferai un plaisir d'en parler avec toi.
Le classico. Je voulais dire évidemment classico.
Non, mais t'inquiète pas, on en reparlera.
Moi, ce que j'imagine, c'est qu'il y aura quand même une réaction d'orgueil dans les grands matchs comme ça. Les grands joueurs qu'il y a dans l'équipe du Real Madrid, ils vont se mettre au niveau. Ça va être la grosse bagarre.
Tu le vois, ils sont stressés, ils sont paniqués.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais ils ont un match un peu moins compliqué. Compliqué en Ligue des Champions cette semaine, contrairement au FC Barcelone qui reçoit l'Inter Milan, ça risque d'être un peu compliqué sans Messi. Parce que moi j'ai vu, je regarde beaucoup de FC Barcelone.
Ils sont égalités sur 6 points, l'Inter et
Barça.
En
plus, mais tu vois, sans Messi, le Barça c'est autre chose. L'autre jour, ils ont joué contre le FC Séville. Ça partait sur un rythme de dingue, une passe décisive, un but en un quart d'heure pour Lionel Messi. On se dit, il va nous en mettre 3 ou 4, il va les plier. C'est et puis au bout de 20 minutes, il sort, il est blessé. Et le jeu du Barça. Plonge les joueurs qui a Coutinho, tous Busquets et compagnie, ça joue moins bien, ils sont moins en confiance et je me dis que peut-être face au Real Madrid la semaine prochaine, un Real Madrid qui va essayer de se remobiliser, ça il peut y avoir une surprise, peut-être une victoire du Real ou un match nul qui serait quand même surprenant.
C'est au Camp Nou, c'est à Barcelone.
Ouais,
hein,
il n'empêche.
Ah, mais c'est vrai
et je me dis que voilà, le Barça est un peu perdu, mais presque quoi, sans Messi.
Ouais.
Bizarrement, alors qu'il y a des grands joueurs qui sont censés être là pour apporter. J'ai vu Ousmane Dembélé, le pauvre.
On va il essaye de faire, mais en tout cas,
le type il court dans tous les sens, il frappe n'importe comment, il joue pas intelligemment.
On a l'impression qu'il est perdu. Gareth Bale, il est aux abonnés absents, Benzema.
Mais comme ils sont en situation de crise au Real Madrid, je me dis que si c'est la grosse équipe qui est alignée, si les Bale et compagnie, même Karim Benzema qui va être là pour un grand match, ils vont essayer de se racheter aussi. Ils peuvent faire quelque chose.
Je pense pas, moi. Je pense qu'ils ont lâché l'entraîneur.
Alors avant la pause.
Ça va être compliqué, mais je pense que de toute
façon Benzema veut partir.
Ils ont lâché l'entraîneur.
Il y a trop de joueurs qui veulent partir.
C'est trop pour l'instant.
Non, moi je pense par rapport au Classico, il y a quand même une grosse pression qui se retire des épaules du Real Madrid. C'est le fait que Messi soit blessé. Quand même, on parle d'une fracture du bras. Enfin, voilà, et ça, une absence pour un bon moment. Donc il y a le l'ogre Messi qui n'est plus là. Et sachant que c'est une équipe qui est aussi amputée d'un Neymar, bon, depuis un an et demi, mais faut dire que le remplacement n'est pas encore totalement fait. En ce sens que Dembélé n'a pas encore pris la dimension qu'il doit
totalement
prendre.
Totalement pas, même.
Ouais, voilà, même s'il fait un bon début de saison.
Non,
quand même.
Il marque des buts, mais c'est des buts, franchement, plus ou moins en carton.
Oui, mais c'est des buts qui marquaient pas,
pas
l'année dernière.
Franchement,
donc,
quand tu le regardes dans le jeu, quand tu le regardes dans
sur le plan, sur le plan comptable, c'est quand même un bon début de saison.
Ouais, mais c'est pas le plan comptable.
Oui, mais après,
c'est le jeu.
Mais bien entendu, qu'on attend pas.
Il s'est fait siffler par le stade.
Mais c'est pas le sujet, Dembélé. C'est pas le sujet.
Allez, rapidement. Bélé, avant la pause, la première.
On n'est pas au niveau de remplacer Neymar pour le moment, malgré un bon début de saison sur le plan comptable. Donc, on a deux équipes finalement qui se valent pour le moment.
Merci, Rudy. Vous restez avec nous, chers auditrices, chers auditeurs de Beurre FM. On revient de suite après cette première pause musicale avant de nous retrouver avec la victoire de la soirée, notamment avec un magnifique derby du Sud. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h. Time Sport avec Bilal Nedman.
Et de retour dans votre émission Time Sport du lundi au vendredi, 18h-19h, accompagné de vos spécialistes durant une heure. C'est l'actualité du sport c'est déjanté, mais toujours pertinent. Avec moi, autour de cette table, je le rappelle, Mamadou Lamine Mané de Deuxième Conseil, Alexandre Seban, journaliste et consultant Time Sport, Nabil Zindi, consultant Time Sport et conseiller sportif, sans oublier notre Rudy Kazi, consultant de cette fameuse émission qui est Time Sport, avec le hashtag du même nom sur la twittosphère, sans oublier le 01 53 48 3000. On y va du côté de Nice. L'Alliance Riviera hier a vu le sacre de l'Olympique de Marseille, 1-0.
Time Sport, la victoire.
Eh oui, à travers le studio, là, il y a des personnes qui sont pour un mauvais match, un match qui a été assez mou, quelquefois, pas avec beaucoup de rebondissements. Qu'en pensez-vous? L'OGC Nice qui recevait l'Olympique de Marseille, une victoire pleine de réalisme. Face à Nice, certains pouvaient lancer et aussi essayer, espérer plutôt, et définitivement lancer cette saison pour l'Olympique de Marseille en Europe et en vue du fameux classique face au Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel ou encore Kylian Mbappé, voire Neymar. On l'écoute, Rudy Kazi.
Ouais, non mais là, lancer la saison de Marseille, je pense pas. C'est un match un petit peu bizarre parce ouais. qu'ils n'ont pas vraiment dominé Nice. C'est plutôt même imposé en termes d'occasion, en termes de tir au but. Marseille n'avait pas mis tous les ingrédients pour pouvoir gagner ce match. C'est vrai que c'est une victoire un petit peu contre le cours du jeu par rapport à ce que Nice a proposé. C'est un peu triste pour Nice qui perdait déjà son précédent match. Match nul contre Toulouse aussi. Enfin, vraiment une mauvaise série. Et là, on voyait une équipe assez entreprenante. Un Balotelli, malgré une méforme, avoir quand même quelques occasions, pas passer pas loin.
Deux grosses occasions.
Ouais, deux grosses occasions.
Dès le début du match, ouais, où Mandanda est.
Pas passé loin de marquer. Et oui, Mandanda, bonne parade sur le côté, sur le poteau gauche. Non, c'est un peu dommage pour Nice, mais tant mieux pour Marseille. Maintenant, pour Marseille, je sais pas si vraiment ça va lancer leur saison.
Alors.
Là, ce qui est bien, c'est de s'être imposé avec les absences de Luis Gustavo, de Florian Thauvin. Ouais.
Et d'encourager l'équipe, en tout cas. Que voilà. faut-il retenir de sa victoire marseillaise? Le résultat ou la manière?
Le résultat. Alors, le résultat.
Le résultat pour toi.
En matière pour une semaine assez compliquée.
Ouais.
Voilà, en Ligue Europa, je pense.
Lazio de Rome, hein. Ouais, Lazio, dernier encart des Marseillais face aux Lazialistes. C'est un carton plein, je crois, du côté du Stade Olympique. 5-1.
Ouais. Avec Simone Inzaghi.
Simone Inzaghi, c'est ça.
Deuxième phase de groupe à l'époque en Ligue des
Champions. Et j'y étais, il faisait très très froid, Alex.
C'est vrai.
Ouais. Très très froid.
Classico derrière.
Et après, ouais. Classico derrière. Ouais, j'ai beaucoup plus frais, peut-être.
Comme on l'a dit, pour le classico espagnol, une réaction d'orgueil, pourquoi pas. Mais là, le PSG est parti pour tout bouffer. Là.
On l'écoute, ouais, Alexandre.
Il va falloir faire attention à Jordan Amavi, parce qu'il y aura Mbappé face à lui. Je pense qu'il va laisser 2-3 côtes par terre.
Ah ouais,
déjà
pour
que c'est compliqué déjà face à des petites équipes, même comme Nice. Déjà hier, ça a été très compliqué.
Amavi va jouer sa vie,
Je sais pas comment Marseille va faire la semaine prochaine. Mais pour en revenir sur le match d'hier, je trouvais très ennuyeux. Ennuyant même. L'OM sans Luis Gustavo, sans Thauvin, sans des joueurs importants, bah c'est compliqué.
L'effectif marseillais.
Il
ouais.
y a le Chris Waddle du pauvre, la Radonjic sur le côté, c'est pas mal. Mais à un moment donné, il faut qu'il apprenne un peu à lâcher le ballon.
Ocampos,
ça mange beaucoup.
Ocampos, il manque Ocampos. Mais Ocampos, c'est déjà, il se bat, mais au final, il y a pas grand chose derrière. Le problème, c'est que pour l'instant, encore une fois, comme un peu l'année dernière, mais en moins bien. Rudy Garcia, il trouve pas.
Oh là là, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive ce soir, Alex.
Sergio Garcia.
Ah ouais.
Il arrive pas à donner un style un peu alléchant à son équipe parce que les joueurs sont pas extraordinaires non plus. Face à une équipe niçoise qui les a dominés, l'OM a eu du bol de marquer un but sur une de ses rares occasions. Maintenant, l'OM, un peu comme l'année dernière, on va dire qu'on va y croire, ils sont devant, donc ça tient, ils
pourquoi
vont
pas
se monter la tête petit à petit. On va espérer que ça
va.
Ouais, l'exploit personnel, sur le côté droit.
Merci, Alex.
Côté droit, un centre en but.
Le 01-53-48-3000, vous faites comme Abdel qui nous appelle depuis Paris et qui aimerait réagir concernant cette victoire olympienne en terre niçoise. On vous écoute. Abdel, bonsoir.
Bonsoir les experts du foot. Quel plaisir.
Bonsoir Abdel.
Bonsoir.
Quel plaisir, bonsoir. Écoutez, moi je voulais intervenir et si vous me permettez me projeter aussi sur la semaine qui est la semaine assez copieuse qui attend Marseille.
Ouais.
Là, j'ai envie de dire par rapport au match d'hier, vous avez une petite analyse par rapport aux performances des uns et des autres. Moi déjà, de manière générale, j'ai trouvé que c'était un match qui malheureusement ne faisait pas ne faisait pas la promotion de la Ligue 1. Parce qu'en 10
mois, je suis d'accord avec toi.
Nice-Marseille, parce que sur le papier, ça peut être plus ou moins intéressant, puisque oui, soi-disant, Derby du Sud, etc. Mais on n'a pas vu vraiment un très bon match avec beaucoup, beaucoup d'erreurs techniques et pas mal d'approximations, mine de rien.
Ah bah faux.
Donc, ça, déjà, moi par rapport à ça, j'étais déçu. Hein, bah, le télé intermittent,
aussi.
Qui fait une première mi-temps qui est plutôt convenable en deuxième période. Le mec, il était
il y a eu deux grosses occasions quand même, hein, Balotelli, hein, en première mi-temps.
Ouais,
Mandanda fait.
Ouais, mais je crois qu'à Marseille, on est content de ne pas l'avoir pris du côté des supporters.
La première période, il était là, mais ensuite, malheureusement, on l'a plus vu. Alors, je ne sais pas si physiquement le mec.
Je pense qu'il a pêché physiquement.
Ouais, voilà, bon, bah, ça, c'est un
malgré sa méforme, il a quand même eu des bonnes occasions, c'est à noter. Hein.
Abdel, justement. Abdel, justement, on aimerait avoir votre réaction. Cette victoire peut-elle motiver, justement, ce groupe olympien à l'approche du match en Ligue Europa face à la Lazio de Rome et aussi après dimanche soir du côté de l'Orange Vélodrome face au grand Paris Saint-Germain?
Ouais. Alors, vous faites bien de dire le grand Paris Saint-Germain, ça me fait plaisir.
Et là au-dessus, de Marseille.
Y a pas faute,
ça fait plaisir à Rusy, mais on s'en fout là. Hein, j'aimerais avoir plutôt la réaction des auditeurs. On vous écoute.
Mais simplement, oui, effectivement, c'est toujours mieux d'aborder une semaine aussi compliquée pour les Marseillais avec une victoire. Parce qu'effectivement, pour la confiance, c'est toujours un plus. Après, il leur manquait quelques joueurs. Mais on en a pas parlé. Strootman nous a fait un pataquet cet été, etc. Ouais, belle recrue, etc. Strootman, joueur basique de Ligue 1. Enfin, il a rien à envier. Qu'on voit en Ligue 1. Non, mais parce que, attention, je parle pas du Strootman il y a 2-3 ans quand le mec, régalait. Là, malheureusement, il arrive à Marseille, mais j'ai l'impression que le mec, il est en fin de carrière, il pique du nez. C'est plus du tout le Strootman qu'on a connu. Enfin, bref. Moi, juste pour revenir sur la semaine des Marseillais, contre la Lazio, ils jouent quasiment leur qualification.
Oui.
Parce que là, c'est hyper important pour eux de gagner. Et contre Marseille, je tiens juste à dire quand même une chose, et je pense que vous allez être d'accord avec moi.
Contre le PSG, oui.
Le match de dimanche, c'est une source de motivation pour les Marseillais, pas pour Paris. Paris, ça reste un match à 3 points pour eux. Hein.
Toujours.
Marseille, c'est le match de gala.
4 points. Ouais. Mais Paris,
alors, Paris à quoi Paris? Le championnat, j'ai envie de dire,
il est payé déjà.
Il
est payé, mais la saveur n'est pas la même que quand, par exemple, le Paris Saint-Germain rencontre au Rodourou l'en avant Guingamp. Là, quand, par exemple, on y va en terre marseillaise, c'est autre chose.
Plus de Guingamp,
Souvenez-vous simplement du match de l'année dernière, le deuxième but de Thauvin, mais le Vélodrome n'a jamais hurlé. De la sorte, les mecs, c'était la Coupe du Monde.
Ouais.
Le deuxième but de Thauvin à 2-1.
Ouais.
Et à contrario, le but de Cavani, l'égalisation, mais c'était le cimetière.
Le cimetière, c'est ça, le cimetière.
Ce qui contredit un peu la thèse du match de gala, quoi. Ils respectent pas leur gala, tu vois.
Moi, j'espère surtout que Paris mettra l'intensité qu'il faut dans ce match-là, parce que l'année dernière, voilà, Paris, ils sont venus au Vélodrome un peu en touriste, ils ont quand même réussi à faire match nul et à pas perdre, mais voilà, on espère avoir effectivement un grand match et l'intensité qu'il faut, mais l'intensité de la première à la dernière minute, pas comme à l'habitude malheureusement sur Paris, c'est-à-dire on fait que la deuxième mi-temps et la première en général c'est un peu soporifique, quoi. Donc voilà, curieux de voir, mais ça va être très très important.
Merci.
Pour Marseille cette semaine. Que pour Paris, parce qu'il y a Naples aussi, ça va être très, très important aussi.
Merci Abdel d'avoir appelé le standard de Beurre FM au 0153 48 3000. Vous le faites quand vous voulez, du lundi au vendredi, 18h, 19h. Vous faites comme lui, cher auditrice, cher auditeur de Beurre FM. On va enchaîner avec toi, Nabil, concernant cet Olympique de Marseille à l'approche du match face à Lazio et aussi au Paris Saint-Germain.
Pour moi, c'est un peu normal. Marseille a l'habitude de commencer doucement, lentement. On a pu le voir l'année dernière.
En Ligue Europa, oui. Pareil.
En Ligue Europa, pareil, ils sont été en finale. Faut pas s'inquiéter. Rudy Garcia l'a souligné, avec sans Luis Gustavo, sans Florian Thauvin, Marseille a gagné à Nice 1-0, a pris les 3 points, a gagné à Monaco aussi 3 points. Aujourd'hui, quand tu regardes le classement de Ligue 1, Marseille est 5e à 3 points du LOS qui est 2e. Donc tout va bien. Tu gagnes contre la Lazio jeudi. Effectivement, à domicile, faudra gagner. Parce que sinon, t'es distancé et la qualif, ça va être compliqué. Et dimanche, c'est un gros classico. J'attends aussi, il a raison, Abdel. Attend de l'intensité, des duels.
De la part des Marseillais, mais aussi.
Jusqu'à la fin, un vrai classico comme on a connu. Une vraie rivalité.
Entre les deux clubs.
Entre les deux clubs.
Mamadou, on l'écoute.
Marseille.
Victoire en trompe-l'œil, victoire en trompe-l'œil. Et malheureusement, pour mes amis marseillais, parce que les Marseillais sont mes amis malgré tout, c'est typiquement le genre de match qui, pour moi, les emmène droit dans le mur. Je vais m'expliquer pourquoi. On s'enflamme effectivement sur cette victoire sur Nice, mais hier, c'est Nice a gagné au point. Enfin, moi, je sais pas par rapport. On regarde un peu tous les consultants. Nice a gagné au point. Effectivement, Marseille gagne sur ce super but de Sanson, mais ça masque beaucoup d'insuffisances dans le jeu,
énormément
énormément d'insuffisances dans le jeu. Et j'ai l'impression, comme toujours, parce que le problème, c'est qu'on a toujours un rapport avec les supporters, et encore plus à Marseille, parce que c'est les supporters un petit peu, ce 12e homme, il est encore plus fort à Marseille. Et il faut toujours se justifier, et on n'est pas capable de regarder les supporters les yeux dans les yeux pour leur dire la vérité. Et quand on entend les joueurs parler hier, au sortir du match, mais ils sont quasiment convaincus qu'ils méritaient de gagner, alors qu'ils ne méritaient pas du tout de
gagner. Après, ne confond pas les supporters de l'OM et les joueurs de l'OM. Moi, je pense que tous les supporters à Marseille et ailleurs voient très bien la réalité des choses, que l'équipe, elle est pas extraordinaire, elle a jamais été extraordinaire depuis bien longtemps. Mais que, moi, de toute façon, face au PSG, ça tiendra pas, et même face à la Lazio.
Celui qui me fait halluciner, moi, c'est Garcia.
C'est un peu sévère, quand même.
Moi, non, mais c'est le coach.
C'est à l'image de la Ligue 1, comme le disait Abdel, le niveau, il est pas.
C'est Rudy Garcia. Rudy Garcia, moi, il me fait halluciner, Rudy Garcia. Rudy Garcia, il y a un voile de ses yeux.
Après, c'est peut-être de la com aussi pour Rudy Garcia.
Il me fait penser à Didier Deschamps, moi.
Carrément pour toi, Nabil.
Le problème de la
communication là,
du fond de jeu.
C'est-à-dire qu'on est en début de saison, on attend beaucoup de l'OM. Effectivement, il y a ce.
Surtout après l'année dernière.
Exactement, les attentes sont encore plus fortes. Et on sait très bien qu'en termes d'effectifs, en termes de contenu, il n'y a pas eu d'évolution. Donc, on peut toujours être surpris. Mais. C'est le meilleur moyen de se casser la tête contre le mur, parce que les attentes par rapport à ce qui existe exactement sur le terrain, le gap, il est trop important. Quand j'entends parler Garcia, tout va bien. Tout va toujours bien. Il est en progression. Et il a la meilleure attaque, moins de buts. Enfin, il est toujours dans une communication qui est ultra positive. Il oublie, il masque tout. Mais ça, au bout d'un moment, le rideau va se.
Il va tomber dernièrement.
Je ne sais pas si ça arrivera
non,
là.
Les attentes.
Après, il faut voir ce que sont les attentes à l'Olympique de Marseille aujourd'hui.
L'attente, c'est d'avoir une grosse équipe, Alexandre. Essayer de conquérir le titre. Tu me fais rire quand tu
parles.
Mais quand même.
Alors,
les attentes
d'avoir une grosse équipe. Mais tu mets pas ce qu'il faut sur le papier pour avoir une grosse équipe.
Je suis d'accord.
Désolé, mais par rapport à l'OM. Ouais. Toujours regarder en toile de fond ce fameux OM Champion Project.
Oui, non, mais c'est
où est-ce qu'on en est par rapport à ça
brodé, on dirait qu'il n'a pas oublié. Alex, justement, la réaction.
Juste pour finir, Bélab, tu vas aller au fond des choses. Pendant tout l'été, on a brodé. Arrivé en septembre, il n'y a rien. On est repart exactement sur le même contact.
Balotelli, c'est quand même consternant de voir que tout le club attend Balotelli sans finalement mettre plus que ne pas mettre les 5 millions d'euros pour l'acheter.
C'était exactement ce que je dis qu'on a brodé pendant tout l'été.
Moi, je comprends.
L'exemple de Balotelli, c'est l'exemple type de ce qui s'est passé. Et finalement, on a beaucoup de vent, beaucoup de moulins à vent et rien du tout.
Avec cette victoire.
C'est cette saison, on va voir si vraiment ils accrochent à cet objectif.
C'est une autre histoire. On termine avec toi, Alexandre. Rapidement sur cette victoire.
Olympique de Marseille, mais il faut mettre de l'argent. Le problème, c'est que l'argent, il y en a, mais les joueurs qui ont été choisis sont pas extraordinaires. Aujourd'hui, Rudy Garcia fait avec les moyens qu'il a aussi. Il développe pas du superbe jeu, c'est vrai, mais les joueurs sur le terrain sont fautifs. Il y a des joueurs qu'on n'a pas bien vus. Strootman, hier, il n'était pas extraordinaire, c'est vrai. Le petit Lopez, on l'a pas vu beaucoup.
Le pire, c'était Payet.
Payet aussi, et comme disait Madou, c'est une victoire en trompe-l'œil. C'est une victoire bonne pour le moral, c'est vrai, avancer.
C'est sûr.
Pour avancer, parce qu'il faut prendre des points, parce que Marseille ne peut pas viser la première place du Paris Saint-Germain. Marseille doit viser la deuxième place, la qualification en Ligue des Champions. Mais d'un autre côté, on se régale pas en regardant l'Olympique de Marseille. Mais c'est ce qu'on demande. C'est
de voir du beau.
Merci, Rudy. Merci, messieurs, les spécialistes. On a terminé avec cette victoire et on va reprendre après la pause avec du football. Mais avant cette pause, on va parler de l'Ovalie, notamment avec l'exploit in extremis du Stade Toulousain.
Time Sport.
L'incroyable mais vrai de ce soir. Victoire d'un souffle du Stade Toulousain, 28-27 face à Leinster. Le Stade Toulousain, actuel leader de la Pôle 1, est-ce la meilleure chance française dans cette Champions Cup? Je vous rappelle que quand même, on a découvert que nos clubs français étaient assez hauts dans le classement, dans l'échelle du rugby, voire mondial. Je parle en tant que club. Mais aujourd'hui, c'est la dégringolade totale. Notamment, j'ai dans ma tête direct le fameux RCT à Toulon. On t'écoute, Alex.
Écoute, c'est toujours un exploit quand un club français bat le Leinster. C'est normal, c'est un grand club européen. C'est l'ogre tous les ans qu'il faut aller chercher, qu'il faut battre pour remporter la Coupe d'Europe. C'est un très gros début de saison, en tout cas en Coupe d'Europe, pour le Stade Toulousain. Ils ont gagné à Bath.
C'est ça.
Sur les terres anglaises, lors de l'ouverture.
Et ils ramènent
le premier match. Le match
8
2,
points.
Ils gagnent à domicile dans un gros match, un grand, grand match. Ils ont fait un très, très beau match, les Toulousains, face au Leinster. Donc c'est fabuleux. Maintenant, voilà, on est en début de saison. Le rugby, ça demande beaucoup d'efforts. La saison est longue. Il faut pas non plus gargariser par ces victoires-là. C'est les matchs de poule. Ça veut pas forcément dire que le Stade Toulousain ira chercher la Coupe d'Europe en fin de saison, parce qu'ils ont aussi d'autres objectifs. Ils ont envie de revenir au top en championnat, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Donc oui, c'est encourageant. Ça donne du baume au cœur, notamment chez les supporters. Ça permet aussi au rugby français, qui est un peu en difficulté en ce début de saison en Coupe d'Europe, d'exister. C'est bien. Mais voilà, il faut pas non plus crier victoire trop tôt. Il faut applaudir dès demain, parce que c'est un exploit. Mais voilà, derrière, c'est encore long. On est au début, ouais. Hein, Bilal. C'est la deuxième journée. Mais bravo.
Ouais,
mais
on a ces clubs, justement. La prochaine journée sera le 8 décembre. Et le Stade Toulousain se déplacera à Waps. Ouais. Rudy, un mot concernant l'eau, va dire, rapidement.
Non, mais c'est un peu la Bérésina en ce moment en Champions Cup du côté de la France.
On n'est plus bon. Ouais, tout simplement. On a l'impression.
Qu'il faut noter maintenant. C'est Toulouse qui effectivement qui est en bonne posture. Je crois que Castres ils sont troisième je crois de leur groupe, donc c'est plus que compliqué. Maintenant il faudra compter quand même il reste quand même deux matchs après,
ouais.
S'ils peuvent pas se sauver Toulouse ou Castres mais c'est vrai que c'est assez compliqué quoi.
Merci pour toutes ces informations, Rudy Cazier, et aussi Alexandre Seban concernant l'Ovalie. De suite après la pause, on entamera notre page duel avec le football italien. De suite avec le hashtag TimeSport.
TimeSport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, TimeSport avec Bilal Nedman.
Et de retour à l'antenne de Beurre FM avec vos spécialistes, Mamadou Lamine Mané de Deuxième Conseil, Rudy Cazier, consultant de TimeSport, je le rappelle, Nabil Zindik, notre consultant de TimeSport et aussi conseiller sportif dans la vie active, et aussi Alexandre Seban, journaliste et consultant de cette émission que vous pouvez retrouver aussi demain. Voilà, ça c'est la petite page publicité.
Ouais, pour TimeSport.
Hein, c'est ça.
Allez.
En tout cas, on n'oublie pas le hashtag TimeSport sur la Twittosphère, sur la fanpage Facebook. La fanpage, elle est au nom de Beurre FM. Vous pouvez liker, vous pouvez aussi donner votre avis. Et le 01 53 48 3000.
Ils peuvent parler aussi de l'émission.
Il est ouvert pour nous appeler, c'est ça. Oui, aussi.
Ouais,
les
parler,
amis, la famille, tout le monde. Allez, notre petit duel, il opposera deux grands du football italien.
TimeSport. Le duel.
À l'image du choc ce week-end remporté par l'Inter, j'allais dire les Bianconero, mais non, c'est
les Nerazzurri.
Nerazzurri, mais c'est vrai. Le projet de reconstruction est-il bien meilleur du côté justement des Interistes ou du côté des Rossoneri pour vous, Nabil? Les 2000 ans.
Du côté de l'Inter de Milan, ils sont en Ligue des Champions. Ils ont une pépite qui a refusé de signer au Real Madrid, Mauro Icardi, l'attaquant argentin.
Qui voulait pas aussi venir à Marseille.
À Marseille, je sais pas s'ils ont
À une époque,
il le voulait. Mais c'est vrai.
Pour que tout le monde le sache, c'est moi qui lui ai déconseillé de venir.
Aïe, Mamadou, c'est pas bien.
J'étais au téléphone.
Tout ça pour te dire, non, le projet de l'Inter est plus cohérent. Ils arrivent en Ligue des Champions à avoir 6 points. Ils arrivent aussi en championnat à rehausser leur niveau, à gagner un derby comme ça, 1-0 dans les derniers instants par Mauro Icardi, l'Argentin. Ça me fait penser à Diego Milito en 2010, lorsqu'ils ont été champions l'Inter. Attention, parce que cette équipe
avait gagné la Champions League
avec Perisic, avec pas mal d'internationaux, peut faire très très mal. Et là, ils reviennent sur le devant de la scène. Et je pense que oui, c'est un projet ambitieux. Quand j'ai vu la joie hier de Zanetti ou du propriétaire, le président Zheng chinois, etc. Oui, c'est concret. Milan, depuis que Berlusconi est parti, Silvio, il n'y a plus rien. Je suis désolé, ils ont attiré Pepita et Higuain en attaque. On a vu hier, c'était un peu limité. Il y a Suso aussi, également, comme joueur. Mais au niveau du fond de jeu, au niveau du style, etc., ça va jouer l'Europa League, quoi. Ce petit Milan qui est aujourd'hui en Europa League. Je pense qu'ils vont finir en Europa League cette saison aussi.
Alexandre.
Ouais, non, pour compléter ce que dit Nabil, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que il faut voir aussi les entraîneurs. L'entraîneur de l'Inter, c'est quand même Spalletti. Il y a quand même, il a un peu plus d'expérience. Il a un peu plus, d'idées. J'ai l'impression que l'ami Gennaro Gattuso,
jeune entraîneur,
qui est un jeune entraîneur, qui est passé par des petits clubs à l'étranger en Suisse, si je dis pas de bêtises, notamment. L'équipe du Milan, elle est pas non plus extraordinaire. Il y a quelques bons joueurs, mais sur le papier, de toute façon, en face, c'était plus solide. L'Inter a l'air d'être plus costaud, plus sérieux, même si ça fait plus ou moins le même temps que les deux ont disparu sur la scène italienne depuis 2011-2012. Ils se sont relayés au niveau du titre en 2010, 2011, 2012 avec aussi les deuxièmes places les unes à la suite des autres. Mais ça n'existe plus les deux aujourd'hui dans le football italien. C'est la Juve et le Napoli. Et puis après, ça existe un petit peu par intermittence. Mais le Milan aujourd'hui, c'est pas terrible parce que les joueurs sont pas à la hauteur. Donc forcément, l'Inter avec Spalletti, ils sont sur le podium, ils sont beaucoup plus forts, et c'est normal que ça avance mieux. Et puis on a l'impression que c'est mieux structuré. Effectivement, c'est ce que disait Nabil avec Zanetti, notamment qui chapeaute un peu le tout là-haut. Donc c'est mieux organisé et c'est logique que pour l'instant, on voit pas le Milan AC revenir sur le devant de la scène.
Rudy, toi, sur ce duel ce soir,
un duel mythique,
l'Inter contre les Milanais.
Encore par le Milan, mais après tu vois c'est le derby quand même laisse la place quand même à beaucoup d'incertitudes par rapport à l'issue du score parce que même si effectivement l'Inter est mieux placé, je crois ils sont quoi troisième, par rapport à l'AC Milan qui est en deuxième partie du tableau, donc ça aurait pu quand même un match qui aurait pu basculer pour le Milan comme ça a pu être le cas par le passé quand l'Inter était bien mieux que le Milan. Maintenant, même si le score et à l'image de ce que l'Inter est en ce moment, mais ça aurait pu être autrement, comme je l'ai dit. Effectivement, il faut tenir compte du contexte qui fait qu'aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs années que le Milan n'arrive pas en fait à rattraper en fait les trois premières places du classement pour se qualifier en Champions League. Effectivement, les changements d'entraîneur, un coup Seedorf. En fait, depuis qu'Allegri est parti,
un peu de désarroi.
Voilà, il y a plus rien dans cette équipe pour tenir le.
C'est la fin de Berlusconi, c'est la fin de l'ère Berlusconi qui a coïncidé.
Il a repris un club, Alex. Il a repris un club de division 2 ou division 3, je crois.
Ça, c'est pour du beurre.
Ouais, mais ils veulent faire grossir le club. Ah ben, tu verras. On en reparlera dans 3-4 ans. Tu verras, il fera monter en série, à mon avis, ce club. Sérieux. Non, mais je suis très sérieux.
Bah après, il y a aussi les atterroiements, entre guillemets, en haute sphère des clubs. Un coup, la reprise du Milan AC a duré très longtemps en termes de négociations.
Exactement, Rudy.
À un moment donné, qu'est-ce qu'on met sur la table comme financement pour pouvoir recruter des bons joueurs? Tu me recrutes Pipita, aujourd'hui c'est Pepito le mec, et en plus, tu le troques pour Bonucci qui se relance à la Juventus.
Non, mais comparé à la Juve, c'est vrai, il a raison.
Ouais, mais c'est pas faux.
C'est un club par défaut, en plus, le Milan, c'est pour
lui.
Il y a aucune visibilité sur les intentions des dirigeants. Dans les journaux, il y a 3 jours.
Ouais, Mamadou.
Qu'est-ce que tu veux faire avec Higuain aujourd'hui?
Je tenais quand même à signaler à Rudy qu'on n'a pas le droit de faire de publicité.
T'es sûr?
Un peu pitot, on n'en parle pas.
Il a chanté. Il a pas fait de pub, là.
Non, mais pour revenir, pour être plus sérieux, mais effectivement, l'Inter a l'air beaucoup plus solide aujourd'hui dans sa reconstruction. Alors, ce qui me fait, moi, je suis un milaniste. Je suis un. C'est pour moi la grande époque du Milan AC avec Arrigo Sacchi quand il a fait revenir Van Basten, les Hollandais volants.
On le parle de maintenant et on tombe dans les équipes de légende.
À l'époque où l'OM.
Vas-y, Mamad, vas-y.
Tu parles de l'époque où l'OM dominait.
Il part avec l'OM. C'est pour ça que je te laisse pas parler de.
Sacchi. 20 ans ne peuvent pas connaître.
Marco Van Basten, Carlo Ancelotti, Donadoni. Costa Curta,
Maldini,
Baresi et le grand Arrigo Sacchi derrière. Je ne peux pas imaginer qu'une équipe qui est un palmarès, qui est effectivement une histoire comme ça, à un moment donné, ça revient. Mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je pense qu'ils ont mis la première pierre. Je parle vu de l'angle du Milan AC, c'est Leonardo. Leonardo, c'est celui qui, pour moi, faut lui laisser un peu de temps. C'est quelqu'un qui sent, il a une intuition. Il l'a prouvé pour le début de carrière qu'il a fait au PSG. Je suis persuadé qu'il prendra, si on lui laisse le temps de mettre son plan, de dérouler son plan, ce sera l'homme de la reconstruction. Il a fait revenir Maldini, moyens. Il me semble que Maldini est revenu il n'y a pas très longtemps. Dans le Giron aussi, Paolo Maldini qui s'est fait draguer par quasiment.
Ouais, mais ouais. Maldini, c'est je veux pas.
Mais il est revenu.
C'est les moyens.
Il est revenu.
Leonardo, c'est quelqu'un qui veut des moyens.
Il y a les moyens. Ouais. Justement, s'il est revenu, c'est parce qu'il y a les moyens. Je ne pense pas qu'il serait revenu à reculons en sachant, on lui demandait, est-ce que tu veux avoir peut-être. Il est venu en ayant de l'assurance.
Après, c'est l'assurance vrai qu'il y a eu une grosse enveloppe sur le recrutement, mais je suis pas sûr que le recrutement ait été bien fait en début de saison.
Laissons-le voir juste à moyen terme. Laissons-le voir à moyen terme. Cette saison, pour moi, c'est un peu, je sais pas,
okay.
On verra.
Et puis le choix du coach.
On était dans la région de la Lombardie.
Coach aussi de
la il a trouvé Gattuso sur place.
Le gars, il va.
Non, mais il a trouvé Gattuso sur place. Gattuso était sur place.
Là, c'est pas les gars sur le terrain qui va tacler. C'est ces gars à la fin, à la mi-temps, tu vois.
Il faut lui laisser.
Il est dans la réaction, Gattuso. Il est pas un visionnaire.
Qui a fait partie d'une très grande équipe du Milan.
C'est Gattuso. Du Milan, il va recomposer autour de lui.
C'est un réactionnaire. C'est pas un visionnaire, tu vois. C'est un mec qui réagit.
Gattuso, oui, mais Gattuso, tu vois.
C'est pas le bon choix.
Comme disait Alex,
moi je trouve que si on
le laisse
beaucoup
le remettre
moins
au cœur du projet, au cœur du projet,
que qu'ils essayent déjà de gagner l'Europa League, puis on verra pour l'AC Milan.
Non, mais ils reviendront sur. Tu me posais la question par rapport au positionnement. Je pense qu'effectivement l'Inter a de l'avance sur la reconstruction, mais le Milan AC, je ne peux pas croire que ce club-là, Milanello, qui était quand même un des premiers centres
de fleurons d'infrastructure incroyable,
ce club-là ne mourra pas. Ils reviendront.
Et on l'espère en tout cas pour tous les amoureux du football. N'oubliez pas, chers auditrices, chers auditeurs de Beurre FM, de réagir au 01 53 48 3000, et aussi sur la Twittosphère avec le hashtag Temsport. On a un peu de temps avant notre dernière partie et on va la garder. On va rester du côté de l'Italie. On quitte la Lombardie pour aller du côté de Volemmo. Voilà, c'est un petit peu dans le sud. Ils avaient attendu combien? 65 ans avant que Diego reprenne un titre dans la Serie A. Oui, un titre du Calcio. C'est bien sûr les Napolitains qui débarqueront demain dans la capitale française pour ce fameux match face au Paris Saint-Germain. Un mot à dire concernant ces Napolitains, Nabil. Faut-il faire attention à ces Napolitains? Parce qu'on entend dans les rues de Paris que Carlo, non, va se faire dépouiller par ces Parisiens.
Non, je ne pense pas. Carlo connaît très très bien la maison. Le Napoli a gagné dernièrement en Ligue des Champions. Ils viennent à Paris pour faire un score. Attention. Neymar est en vacances. Lorsque Tuchel a laissé quelques jours en Allemagne en vacances dans son ancien club, ils ont perdu. Donc attention, moi je m'inquiète un peu au niveau du management de Tuchel pour un match de Ligue des Champions contre le Napoli qui est déjà décisif pour le Paris Saint-Germain. Attention, si le Napoli gagne ou fait match nul, Paris sera embêté.
Mauvaise posture, Alexandre, concernant ces Napolitains du côté du Parc des Princes, 21h. C'est bien ça, mercredi, je crois,
c'est
ou 20h45.
Écoute, je suis en train de vérifier l'horaire. C'est 21h, 21h, heure de Paris.
Heure de Paris.
En tout cas, soyez-en sûrs. Ouais, il faut se méfier. Il faut se méfier de Naples. Pour ceux qui voyagent, ceux qui sont en temps universel ou quoi. Non, Naples, en plus, premier de son groupe, 4 points devant Liverpool et le PSG avec 3 points. Il faudra se méfier du Napoli. Il faudra se méfier de Carlo Ancelotti qui a forcément des idées, qui a forcément envie de refaire un petit coup au Parc des Princes, là où il a eu de beaux succès, qui a aussi connu quelques désillusions. On se souvient qu'il est parti parce qu'il avait été mis.
C'est un coup de pression aussi.
Il avait pris un coup de pression au mois de novembre, je crois, l'année où il était là. Et puis ensuite, il est parti pour le Real Madrid et gagner la Ligue des Champions. Je pense que le Napoli a un coup à jouer. Pas obligé de gagner demain.
Ouais.
Pas obligé de gagner demain face au PSG. Peut faire un gros coup de Trafalgar au PSG en venant faire un match nul. Et derrière, il faudra aller gagner pour Paris là-bas. Hein,
ça va être sûr.
Au stade dont il échappe d'un coup au San Paolo, pardon.
Ouais.
Donc du coup, oui, Paris, il faudra bien se méfier de ce match de demain. Ça sera dur. Et il faudra faire très attention parce que si demain, ça se passe mal pour le PSG, le Paris peut tomber dans les doutes et la crise.
Alex, le mot concernant le Paris Saint-Germain face à Naples, avant de passer à la F1, Rudy.
Non, mais il y a des possibilités pour Paris de gagner ce match, même si Napoli, effectivement, est très bien. Quoi qu'en fait, sur le championnat, c'est plutôt cette période actuelle, parce que le début de championnat était encore un petit peu mitigé. On se dit, peut-être qu'Ancelotti, il a du mal encore à gérer ce groupe. Mais là, leur saison est bien lancée et en Serie A et en Ligue des Champions. Toutefois, celle de Paris aussi est bien lancée.
Ouais.
En Ligue des Champions, même s'il y a des questionnements un petit peu sur ce match qu'ils ont gagné à Belgrade.
On les reverra justement.
Le Paris a vraiment lancé sa saison depuis qu'ils ont réalisé que leur défaite était totalement scandaleuse contre Liverpool. En tout cas, dans l'intention.
On reviendra sur Liverpool. T'inquiète pas, Rudy. Et pour tous les amoureux de ce club, qui est le Paris Saint-Germain. que nous respectons tant. Un grand club d'Europe, faut le dire.
Et toi le premier, puisque tu es Marseillais.
Moi, je respecte toujours le Paris Saint-Germain. Contrairement à d'autres, moi, j'ai toujours respecté le Paris Saint-Germain, honnêtement. Les joueurs, la direction, tout le monde. Non, mais vraiment, vraiment. Alors, ah ouais, c'est... Oh là là, ça clash normal. Mamadou, on lui donne pas la parole. Vous en pensez quoi, cher auditeur? On passe directement au mode pressing. Allez, le mode pressing aussi pour Mamadou.
Non, mais demain, moi, je suis content parce que demain, c'est un match où Paris va passer au révélateur. Demain, Naples, effectivement, comme l'a dit Alex, comme l'a souligné Rudy, et même effectivement Nabil, Naples n'est pas obligé de gagner demain. Donc Paris va passer au révélateur. Et de toute manière, Paris doit passer au révélateur pour savoir s'il veut passer plus loin. Ça ne nous intéresse pas de savoir ce qui se passe aujourd'hui. Paris, on est capable de savoir si Paris va passer les huitièmes, voire même les quarts. Donc demain, être dans cette situation-là, c'est très bien. Et que ça arrive très tôt dans la saison de la Ligue des Champions, c'est très très bien pour Paris. Comme ça, ils seront moins fixés. Et on ne va pas se gamberger pendant... se poser 10 000
questions.
Paris
a dans le ventre.
Voilà, on quitte Paris pour rejoindre le Texas et plus précisément la ville d'Austin où s'est passé hier le Grand Prix des États-Unis.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, un certain Lewis Hamilton ne cesse de dire qu'il veut, lui aussi, faire entrer son nom dans l'histoire de son sport. Faut le rappeler. Si tout se passe bien pour lui, quand même à 33 ans, il égalerait l'Argentin Juan Manuel Fangio, devenu quintuple champion du monde en 1951, 54, 55, 56 et 57. On va savoir aussi notre grand champion qui était aussi Michael Schumacher, qu'on n'oublie pas. Ce record lui permettra-t-il de faire partie des légendes de la F1, Alexandre?
Non, mais il est déjà dans l'histoire de la F1.
Pour toi, pour certains,
non,
pas encore.
C'est sûr et certain.
Eh ben, pour certains, pas encore.
Il n'y a pas débat.
Alex.
Je suis désolé, je suis pas d'accord.
Alors,
Bilal.
Okay.
Bilal, quadruple champion du monde. Ça veut dire que t'es déjà devant Ayrton Senna. T'es, t'es l'égal d'Alain Prost.
N'a pas eu le temps.
Déjà dans l'histoire de la Formule 1. T'es l'égal de Sébastien Vettel.
Ayrton
est ton grand concurrent aujourd'hui. Mais tu es dans l'histoire de la Formule 1 parce que de toute façon, tu vas être quintuple champion du monde. Puisqu'il lui manque 5 points sur 75 possibles à prendre à Lewis Hamilton. Il sera champion du monde la semaine prochaine, Lewis Hamilton. Il y a eu quelques petites erreurs de fait chez Mercedes durant ce week-end. Disons qu'ils ont un petit peu mal géré leur course, mais aussi la performance. Pardon ?
Il n'y a pas eu de préparation sur la
veille. Alors, c'est pareil pour tout le monde. Comme le disait Toto Wolff, le patron de l'écurie, hier au sortir du Grand Prix, les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Ils se sont vus en mauvaise, ils se sont retrouvés en mauvaise position parce qu'ils ont senti que voilà, leur package n'était pas optimum avec les pneus ultra tendres. Ils sont fait dépasser par les Red Bull, mais aussi par la Ferrari de Kimi Raikkonen. Il y a une mauvaise gestion aussi au moment de l'entrée.
Il y en a beaucoup du côté de la Scuderia quand même.
Mais voilà, Lewis Hamilton sera champion du monde, il n'y a aucun problème.
Ouais,
c'est évident.
Comme l'année dernière d'ailleurs.
Il y a eu pas mal de petites erreurs techniques. Peut-être un petit peu, ils sont peut-être vus un petit peu trop beaux, trop vite aussi. Un petit excès de confiance d'Hamilton qui va assez rapidement au stand, puis finalement il essaie de rattraper des points, il arrive deuxième, il remonte à la deuxième place, puis finalement il la perd. Non, c'est, je pense qu'il s'est vu un petit peu trop beau, trop facile, alors que la rencontre, déjà en plus, ce terrain, c'est un terrain dans lequel il a souvent, enfin il gagne pas assez si facilement que ça. Et en plus de ça, la gestion, les pneus légers qui ont pas été bien gérés à ce moment-là. Voilà, alors que d'autres, je crois que Raikkonen, eux, ils étaient partis sur des
pneus d'accord avec toi,
légers,
c'est vrai.
Donc qui permettaient une meilleure
non, c'est leur package châssis moteur qui a mieux exploité le potentiel de la voiture sur
quelquefois ils ont perdu, mais en même temps quand même un petit excès de confiance
bien sûr.
Ben non, ça a pas retardé le sacre évidemment.
Alors Mamadou, concernant ce mode pressing,
là où Rudy voit du peut-être une forme d'arrogance, une forme d'excès de confiance. Moi, je vois plutôt comme essayer de contrôler sa course et éviter de faire beaucoup d'erreurs parce que là, il a pas de risque à prendre. Il peut effectivement voir tranquillement dans son baquet et attendre effectivement derrière que la course se déroule.
Et pourquoi il va aussi rapidement au stand? Pourquoi tu vois, il perd quand même, même s'il fait, je crois,
la chronologie de la course pour toi est assez un peu ambiguë.
L'arrêt au stand a été rapide.
Moi, je l'ai vu plutôt comme quelqu'un qui contrôle sa course.
Mais moi, c'est une forme de fébrilité.
Non, moi, je vais vous dire, je pense que hier, il fallait attaquer un peu plus que d'habitude parce qu'il était pas devant. Il s'est manqué sur la fin. Il aurait pu aussi repasser devant petit Verstappen, qu'il faut saluer, Verstappen qui est parti du fond 18e, il a fini 2e.
Merci.
Champion du monde la semaine prochaine.
Champion du monde,
comme l'année dernière.
On verra bien en tout cas. Mais tu as eu de la chance, Alexandre Seban, parce que tu m'as taillé là sur la Ayrton Senna. Mais Ayrton Senna, une grande gloire du sport. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. Rendez-vous demain à partir de 18h sur l'antenne de Beurre FM. Et bonne écoute.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.